aussi une question dont la réponse nous mènera à de belles découvertes. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Apocalypse concernant la personne de Jésus-Christ? Le grand livre de Dieu va nous le faire connaître davantage aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, vous voulez mieux connaître le Seigneur Jésus? Eh bien, cette émission est pour vous. Voici les questions qu'on va poser à la parole de Dieu aujourd'hui. Quels sont les liens, les contrastes et la symétrie qui existent entre la Genèse et l'Apocalypse? Qu'est-ce qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse concernant la personne de Jésus-Christ? Est-ce que l'Apocalypse est le seul livre de la Bible dont Jésus-Christ est le thème central? Que signifie le titre de l'Apocalypse? Ce livre est-il réservé à l'usage d'une poignée d'initiés qui sont seuls à pouvoir l'interpréter? Quelle est la définition des symboles de l'Apocalypse? Quand ce livre parle de choses qui doivent arriver bientôt, y a-t-il une volonté humaine qui peut s'opposer à ce qu'elles arrivent? Comment ceux qui lisent et qui écoutent la parole de Dieu sont-ils bénis? Demeurez à l'écoute, nos réponses ne vont pas tarder. Elles nous seront une fois de plus données par les Saintes Écritures et par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. C'est merveilleux d'écouter ta parole, Seigneur. C'est merveilleux de la lire, de la méditer. Combien tu enrichis nos vies. Combien on peut mieux te connaître par cette parole, mieux connaître ton grand amour. Alors manifeste-nous cet amour à travers la bouche de ton serviteur aujourd'hui. Parle à nos cœurs et qu'on puisse t'aimer en retour avec des cœurs reconnaissants. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que le livre de l'Apocalypse est l'accomplissement et le couronnement de la Bible entière. Il est donc impératif de bien comprendre les relations qui existent entre ce dernier livre et tous ceux qui le précèdent. Jésus-Christ est le thème central de la Bible. Dans le dernier livre de l'Ancien Testament, il est le soleil de justice. Dans le dernier livre du Nouveau Testament, il est l'étoile du matin. De la Genèse à l'Apocalypse. La Bible est un livre extraordinaire. Une quarantaine d'auteurs inspirés de Dieu ont été impliqués dans sa rédaction. Elle raconte la merveilleuse histoire d'un Dieu qui s'est révélé à ses serviteurs pendant plus de 10 siècles. Pourtant, du début à la fin, la Bible fait preuve d'une remarquable cohérence. Puisque nous sommes rendus au dernier livre de la Bible, nous allons étudier les liens, les contrastes et la symétrie existant entre le premier livre de la Bible, la Genèse, et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Dans la Genèse, la terre est créée. Dans l'Apocalypse, la terre disparaît. Dans la Genèse, nous trouvons la première rébellion de Satan. Dans l'Apocalypse, nous trouvons sa dernière rébellion. Dans la Genèse, le soleil et la lune et les étoiles sont créés pour présider au jour ou à la nuit. Dans l'Apocalypse, ils sont utilisés pour le jugement. Dans la Genèse, le soleil et la lune éclairent le jour et la nuit. Dans l'Apocalypse, la ville n'a plus besoin du soleil ni de la lune pour éclairer, car, selon Apocalypse 21, verset 23, « la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau ». Dans la Genèse, les ténèbres sont appelées nuit, et dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 25 et chapitre 22, verset 5, il n'y a plus de nuit. Dans la Genèse, l'amas des eaux est appelé mer, et dans l'Apocalypse, il n'y a plus de mer. Dans la Genèse, le péché fait son entrée dans le monde, dans l'Apocalypse, il en sort. Dans la Genèse, la malédiction est prononcée, dans l'Apocalypse, la malédiction est enlevée. Dans la Genèse, la mort pénètre dans le monde. Dans l'Apocalypse, il n'y a plus de mort. Dans la Genèse, nous voyons le début du chagrin et de la souffrance. Dans l'Apocalypse, nous ne trouvons plus aucun chagrin ni souffrance. Dans la Genèse, le premier Adam se marie. Dans l'Apocalypse, le dernier Adam se marie. Dans la Genèse, les hommes construisent leur cité, Babylone. Dans l'Apocalypse, Babylone, la ville des hommes, est détruite et la cité de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, apparaît. Dans la Genèse, le châtiment de Satan est prononcé. Dans l'Apocalypse, il est exécuté. Il est également intéressant de remarquer que la Genèse débute, la Bible, non pas avec une vision globale, mais une vision universelle, comme il est écrit dans Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible se termine aussi avec un regard global et universel. L'Apocalypse nous révèle ce que Dieu va faire de son univers et des créatures qui l'habitent. Nul autre livre ne lui est comparable. La personne de Jésus-Christ. Comme nous l'avons vu à la dernière émission, le livre de l'Apocalypse est centré sur Jésus-Christ et plus particulièrement sur sa personne, sa possession et son programme. Nous verrons donc d'abord sa personne dont il est question dans le chapitre 1. Nous le voyons dans la gloire. Alors qu'il occupe ses responsabilités de souverain sacrificateur à la tête de l'Église, il exerce un contrôle absolu non seulement sur l'Église, mais sur la création. Dans les Évangiles, nous le voyons doux et humble. À sa première venue sur la terre, il s'est offert en cible à ses ennemis et il est mort sur la croix. Mais ici, la description du Christ glorifié est complètement transformée. Il est toujours l'agneau de Dieu, mais sa colère est maintenant révélée, la colère de l'agneau. Cette colère terrifie la terre entière. Quand il exprime sa colère, son jugement s'exerce sur la terre. La personne de Jésus-Christ est le thème de ce livre. Et quand la scène se déplace dans les lieux célestes, nous le voyons encore diriger toutes choses. Jésus-Christ est le thème central non seulement du dernier livre de la Bible, mais de la Bible tout entière. Les Écritures sont en même temps centrées sur Dieu et sur Jésus-Christ. Puisque Jésus est Dieu, il est celui qui remplit l'horizon de la totale parole de Dieu. Nous devons toujours garder cela en tête lorsque nous étudions l'Apocalypse. L'ensemble de la Bible nous apprend ce que Jésus a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. C'est pourquoi Jésus lui-même affirme « Je suis le premier et le dernier et le vivant ». Jésus vivait avant toute chose et il reste vivant pour l'éternité. Il contrôle tout. L'Apocalypse souligne en même temps ce qu'il fait présentement et ce qu'il fera à l'avenir. Le titre du livre, chers amis, débutons la lecture du livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le titre du livre est « La révélation de Jésus-Christ ». On se rappelle que le mot « Apocalypse » vient du grec « apokalypsis », qui signifie « révélation » ou « dévoilement ». Dans ce livre, Jésus-Christ se révèle tel qu'il est réellement, glorifié, ressuscité et redoutable. Dans les Évangiles, Jésus se révèle surtout comme l'agneau immolé, doux et humble de cœur. Son amour et sa compassion ont été soulignés lors de sa première venue. Ici, l'accent est davantage placé sur sa puissance et sa gloire afin de compléter le portrait de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, l'auteur reçoit les instructions suivantes au verset 10. « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » L'Apocalypse n'est pas un livre scellé et hermétique. Il n'est pas réservé à l'usage d'une poignée d'initiés qui sont les seuls à pouvoir l'interpréter. Il a été écrit pour être compris par tout le monde à partir du temps de sa rédaction jusqu'à aujourd'hui. Cela le distingue du livre de Daniel où la prophétie devait être scellée. Notre Seigneur Jésus nous a également donné ce qui est connu comme les paraboles mystérieuses. Et franchement, elles sont encore un mystère pour la majeure partie de son Église. Le principe derrière ce type d'écriture est énoncé dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, versets 11 et 12. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Les évangiles ne révèlent pas la totalité du message de Dieu. Nous avons besoin du livre de l'Apocalypse, car il est l'achèvement de la révélation contenue dans la Bible. Bien sûr, ce message peut seulement être compris si l'Esprit de Dieu nous l'enseigne. Car Dieu se révèle de l'extérieur par sa parole, contenue dans la Bible, et de l'intérieur par son Saint-Esprit. Si l'un reçoit trop d'accent aux dépens de l'autre, il en résultera un déséquilibre dans notre compréhension du message de Dieu. Le livre de l'Apocalypse soulève le voile afin que nous puissions contempler Jésus-Christ dans toute sa gloire et sa puissance. Il est donc le contraire d'un secret ou d'un mystère. Car en lui, les secrets sont révélés. Si un chrétien me dit qu'il ne comprend pas le livre de l'Apocalypse, je m'efforce de lui en montrer le sens. Mais si un soi-disant chrétien me dit que le livre de l'Apocalypse est incompréhensible, que puis-je faire pour lui? Pourtant, ce livre nous a été donné afin que nous puissions comprendre les mystères du royaume de Dieu. Il remplit à ce titre la même fonction que les paraboles de Jésus-Christ. La signification des symboles. Pour montrer. Comment l'apôtre Jean s'y prend-il pour nous montrer les choses qui doivent arriver bientôt? Il se sert de paroles qui nous décrivent des images. Il se sert de symboles et de représentations directes et indirectes. Et qu'il a fait connaître. Dans le texte original grec, le verbe traduit ici par « faire connaître » peut également être traduit par « donner un signe ». Comment Jean nous fait-il connaître la révélation de Jésus-Christ? En nous donnant des signes. Il utilise des symboles. Mais gardons à l'esprit que ces symboles se réfèrent à quelque chose de réel. Si je vous dis que le symbole doit être le signe d'une chose réelle, cela peut vous sembler évident. Et pourtant, cela semble échapper complètement à un nombre surprenant de commentateurs de l'Apocalypse. Ils vous diront que ce livre est incompréhensible car il est rempli de symboles. Mais si on leur demande la signification de ces symboles, ils sont incapables de répondre. Rien d'étonnant à ce qu'ils trouvent ce livre incompréhensible. Je répète que l'Apocalypse est un livre prophétique. Pour bien le comprendre, je dois rappeler une autre fois un principe essentiel pour la compréhension des prophéties que nous retrouvons dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. En d'autres mots, on ne peut pas interpréter un texte par lui-même sans le concours de l'ensemble de la parole de Dieu contenue dans la Bible. Écoutez cette phrase d'Atman. Le langage figuratif de l'Apocalypse est figuratif de certains faits. En d'autres mots, le langage figuratif de l'Apocalypse doit représenter quelque chose pour montrer à ses serviteurs les choses. Voilà à quoi servent les signes et les symboles des Écritures, à montrer des choses. Ces symboles ne sont pas des rêves impalpables. Ce livre renferme un noyau de faits réels. Quand nous parlons de choses, nous ne parlons pas d'une vapeur qui disparaît dans les airs. Nous parlons de choses concrètes. L'autre soir, ma femme et moi gardions notre petit-fils. Nous avions sorti les jouets que nous avions à la maison pour lui. Il a répandu tous ses jouets sur le plancher de la salle. Quand l'heure du dodo est venue, nous ne lui avons pas fait ramasser ses jouets avant de le mettre au lit. Et puisque nous étions un peu fatigués, grand-maman et grand-papa ne les ont pas ramassés non plus. Et quand grand-papa s'est levé au milieu de la nuit pour aller à la salle de bain, que pensez-vous qu'il s'est passé? Il a mis le pied sur quelque chose et il a fait une culbute. Permettez-moi de vous dire ceci. Ce n'est pas un symbole qui m'a fait m'étendre de tout mon long sur le plancher de la salle en plein milieu de la nuit. C'était quelque chose de bien concret. Et si cela vous était arrivé, vous pourriez certainement faire la différence entre une chose et un symbole. Dans le livre de l'Apocalypse, les choses sont matérielles, elles sont réelles. Et quand l'auteur utilise un symbole, il nous fait clairement savoir qu'il utilise un symbole à ce moment. Nous pouvons être certains qu'il utilise un symbole parce que la réalité est beaucoup plus grande que le symbole qui la représente. En fait, le symbole est une représentation assez pauvre de la réalité. Mais que voulez-vous? Les réalités célestes du royaume de Dieu sont tellement élevées au-dessus de notre expérience terrestre que nous devons nous contenter de ce genre d'illustration. Du moins pour le moment. Les choses qui doivent arriver bientôt. Remarquons l'expression « doivent arriver ». Aucune volonté humaine ne peut s'opposer aux choses qui doivent arriver bientôt et qui sont décrites ici. Car elles arriveront par la volonté toute-puissante de Dieu. Les décrets divins sont tout aussi certains que la loi de la gravité. Peu importe si vous croyez ou non en Dieu, vous accomplirez un jour sa volonté, de votre plein gré ou malgré vous. Vous pouvez sauter d'un gratte-ciel en clamant que vous ne croyez pas dans la loi de la gravité. Mais je puis vous dire ce qui va vous arriver. De la même manière, nul homme ne peut mépriser Dieu indéfiniment sans en payer le prix un jour ou l'autre. On ne se moque pas de Dieu. Les choses qui doivent arriver bientôt. Considérons maintenant le mot « bientôt ». Le mot du texte original grec peut également être traduit par « promptement, en vitesse ou avec rapidité ». On retrouve le même mot dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18, le verset 8. « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » En d'autres mots, lorsque le jugement de Dieu sur le monde s'exercera, il s'exécutera promptement. En fait, beaucoup seront pris par surprise. C'est pourquoi Jésus dit « Je viendrai comme un voleur ». Cela n'implique donc pas qu'il reviendra dans peu de temps, mais quand il reviendra, les choses dont il est question ici arriveront en très peu de temps. Sa vengeance sur les rebelles s'accomplira très rapidement. L'apôtre Jean nous fait ensuite savoir qu'il nous transmet la révélation de Jésus-Christ que ce dernier a lui-même reçue de Dieu. Nous pouvons donc voir les différentes étapes de cette révélation. Elle est partie de Dieu, elle a été transmise à Jésus-Christ, ensuite donnée à l'ange, ensuite à l'apôtre Jean, et de Jean, elle s'est rendue jusqu'au serviteur, afin qu'il connaisse les choses qui allaient se produire. Relisons le verset 1 en gardant cette séquence à l'esprit. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Tout y est. En passant, j'ai déjà affirmé que les anges ne sont pas reliés au temps de l'Église. Le Saint-Esprit a pris la relève à la Pentecôte. Personnellement, si je dois être guidé par un être spirituel, je préfère être guidé par Dieu lui-même, le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, que par une créature, fût-elle céleste. L'ange dont il est question ici est effectivement un messager céleste. Mais remarquez que l'apôtre Jean nous parle surtout d'événements à venir. Il s'agit de choses que Jésus accomplira dans le futur. À partir du chapitre 4, l'action se situe dans le futur, après le temps de l'Église. Celle-ci aura été enlevée de terre. C'est pourquoi les anges reviennent sur la scène. La méthode de révélation. Apocalypse chapitre 1, verset 2. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Celui-ci a attesté la parole de Dieu. Celui-ci est l'apôtre Jean. Dans le grec original, le temps du verbe « a attesté » est un aoriste épistolaire. Cela signifie que Jean se projette à l'époque où vivent ses lecteurs. Il se met à notre place, aujourd'hui, et il regarde en arrière, au temps où il a écrit son livre, la parole de Dieu. Je crois que l'auteur fait à la fois référence au contenu de ce livre et à Jésus-Christ. On se rappelle qu'au début de son évangile, l'apôtre Jean décrit Jésus-Christ comme la parole de Dieu incarnée et vivante. Jésus est la parole vivante, révélée à nous dans la parole de Dieu, contenue dans la Bible. Et le témoignage de Jésus-Christ. Le mot « témoignage » revient très souvent dans l'œuvre de l'apôtre Jean. Il ne s'agit pas de vaines spéculations, mais d'une histoire vécue. Pour Jean, l'existence de Jésus-Christ ne fait aucun doute, comme il le souligne dans Jean chapitre 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » L'apôtre Jean a donc reçu le message de Jésus de première main. Pour Jean, Jésus a véritablement vécu les réalités célestes dont il parle. Jean a vécu 3 ans avec le Messie. Il sait que Jésus n'est pas un homme comme les autres. Soit tout ce qu'il a vu. Non seulement l'apôtre Jean était-il un témoin oculaire de l'existence corporelle de Jésus lorsqu'il marchait parmi les hommes, mais il témoigne également des visions qui lui sont maintenant révélées. L'apôtre Jean nous donne un compte-rendu de ce qu'il a vu. Il tente de nous décrire ce qu'il a vu avec des mots, comme un témoin tente de rapporter un événement au meilleur de ses capacités. Les réalités célestes sont transmises par Dieu à son Fils Jésus-Christ. Elles ont été ensuite données à un ange et ensuite à l'apôtre Jean. Et ce dernier a écrit tout ce qu'il a vu. Et Jean n'a pas seulement vu, il a entendu ces choses. Ces 2 sens nous apportent habituellement la majeure partie de nos informations sur notre environnement. Je me demande parfois si l'apôtre n'a pas également senti certaines choses. On peut presque discerner l'odeur du soufre dans certaines parties de son livre. La bénédiction de l'étude de la Bible. Apocalypse, chapitre 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Jésus débute le sermon sur la montagne avec plusieurs béatitudes en utilisant une formule semblable. « Heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux les humbles. » On trouve dans l'Apocalypse 7 béatitudes. Heureux celui qui lit, indique le lecteur, ou dans l'Église, l'enseignant. Ceux qui lisent et ceux qui écoutent seront bénis, en autant qu'ils gardent les choses qui y sont écrites. Cela implique, bien sûr, de reconnaître la véracité de ces choses. Les 3 ingrédients sont nécessaires. Lire, écouter et garder. Je suis convaincu que les personnes qui observent ce processus avec le livre de l'Apocalypse recevront une bénédiction spéciale. Jean nous le garantit, car le temps est proche. Cela ne signifie pas que les événements décrits à la fin de ce livre s'accomplissent actuellement. Cela veut simplement dire que le début de l'Église, au jour de la Pentecôte sur la terre, a inauguré le mouvement du ministère du Seigneur Jésus dans les cieux. Nous verrons dans ce chapitre une vision du Christ glorifié. Nous verrons ensuite en quoi consiste ce ministère et cela nous conduira vers les temps futurs. Aujourd'hui, chers amis, vous pouvez rencontrer Jésus-Christ comme votre sauveur personnel en ayant les yeux de la foi. Oui, par la foi, vous pouvez saisir cette vérité aujourd'hui même. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, les versets 4 à 9. À vous tous, bonne lecture.
Merci, Régent. J'ai trouvé ça vraiment intéressant quand tu nous as énuméré les liens, les contrastes et la symétrie qui existent entre le premier livre de la Bible, la Genèse, et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Surtout quand tu as dit que dans la Genèse, on voyait le début du chagrin et de la souffrance, et que dans l'Apocalypse, on ne trouvait plus aucun chagrin, aucune souffrance. Et quand tu as ajouté que dans la Genèse, les hommes construisaient leur cité, Babylone, et que dans l'Apocalypse, Babylone, la ville des hommes, était détruite et que la nouvelle Jérusalem apparaissait. Wow, quelle promesse pour nous les croyants! Mes amis, on sait que le chagrin et la souffrance sont le résultat du péché qui a débuté avec Adam et Ève, et il s'est répandu jusqu'à nous. Et je me souviens combien le péché m'a fait souffrir dans le passé. Avant que je reçoive le pardon de Dieu, j'attribuais ma souffrance au manque d'amour, aux frustrations de mon métier de chanteuse, à l'injustice que je voyais autour de moi, mais je ne savais pas encore que c'était le péché qui me rendait si misérable, parce que le péché nous éloigne de Dieu. Ce qui me manquait, c'était la présence de Dieu dans ma vie. Et Dieu merci, il s'est fait connaître à moi. Et il a par le fait même remis la joie dans mon cœur. Et même aujourd'hui, quand je pêche, quelle tristesse s'installe en moi, jusqu'à ce que je me repente et que je demande pardon à Dieu. Marie-Jean nous a dit que dans l'Apocalypse, on ne trouvait plus aucun chagrin, aucune souffrance. Il est même écrit que Jésus essuiera toutes larmes de nos yeux. Quelle consolation! Et quand je pense en plus que la ville des hommes, Babylone, mentionnée dans la Genèse, sera détruite et que la nouvelle Jérusalem apparaîtra, eh bien là, mes amis, je me réjouis réellement parce que je sais que j'y habiterai pour l'éternité et que je serai dans la présence de mon Dieu, de mon Sauveur Jésus, celui qui a souffert et qui est mort sur la croix pour expier mes péchés. J'ai tellement hâte de voir cet endroit et j'ai encore plus hâte de voir le visage glorieux de mon Sauveur. Mon ami, si tu n'as pas cette même certitude que moi concernant ta sécurité éternelle, j'aimerais t'inviter à faire le pas que j'ai fait il y a déjà plus de 30 ans. Si tu crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur, si tu crois que Lui seul est le chemin qui mène au ciel et qu'Il a payé ton billet pour y aller quand Il est mort sur la croix, eh bien demande-Lui de devenir ton sauveur personnel. Reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse, perdue. Repens-toi. La repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait qu'on ne veut plus le commettre. Et quand tu recevras Jésus comme Sauveur et Seigneur, son Esprit viendra habiter en toi. Il te donnera la force de résister contre le mal et pour faire le bien. Et si tu pèches, tu ne perdras même pas ton salut. Tu t'en rendras compte, tu n'auras qu'à demander pardon à Dieu qui ouvrira tout grand ses bras pour t'accueillir. Mais tu ne te plairas plus dans le péché. Tu vas plutôt te plaire à faire le bien, à lire et à méditer la parole de Dieu et à annoncer à tous ceux qui veulent l'entendre que Jésus est ton sauveur et qu'il veut devenir le leur, leur sauveur merveilleux, tout comme je le fais en ce moment avec toi. Alors, mon ami, repens-toi et crois à la bonne nouvelle.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Réjean, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors, on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Ah,
pour en faire
compliqué.
La correction, parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone.
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.